Vous écoutez
RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
RMC.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Rotten est là, Jonathan McCarty est là et James Troff est notre invité ce soir, porte-parole de l'Association Nationale des Supporters, donc pour parler de ces interdictions de déplacement qui se multiplient. Avant d'avoir l'avis un peu de tout le monde, encore deux trois infos. Donc je disais oui, en Coupe d'Europe, ça a été aussi le cas cette année. Alors c'est, par exemple demain, Strasbourg-Francfort. Ce matin, préfecture du Bas-Rhin, PAM, les supporters allemands, vous ne pouvez pas aller dans telle zone, telle zone, telle zone. Or, on sait que demain, on attend peut-être... près de 10 000 supporters allemands, parce que Francfort c'est à 200 km, alors qu'il n'y en a que 1 000 ou 1500 maximum qui auront des billets pour le stade. Donc tous les autres, bah, ils vont être en ville, ils vont être autour du stade, ils vont être là. Et ils gueulent en disant, mais attendez, nous on se déplace tout le temps de partout, il n'y a jamais de problème. Alors pourquoi est-ce que là en France.
Et là c'est quoi, ils n'ont pas assez de place à leur donner?
Non, il y a le problème des places, ça c'est une chose. Mais
le mec, pourquoi il se déplace, il n'a pas de place?
Parce qu'ils veulent faire la fête avec leurs potes dans la ville de la Coupe d'Europe, tu vois, voilà. Dans la ville où leur équipe joue en Coupe d'Europe. Et là, on leur dit, dans telle zone, vous n'avez pas le droit. Autour du stade, là, vous n'avez pas le droit. Et puis, dans tel coin de la gare, par exemple, vous n'avez pas le droit. Voilà. Et eux, il y aura, liberté de circulation, qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi. Donc, ça ne concerne pas que la Ligue 1.
Et pour le coup, le nombre de forces de l'ordre mobilisées sera plus important en cas de ce genre d'interdiction pour contrôler justement que les interdictions sont bien respectées.
Ça, c'est là où est le nœud du problème. Et là, on peut parler d'hypocrisie parce que, alors, déjà, en plus, c'est ce que disait Daniel est tout à fait juste. On a déjà des forces de l'ordre qui sont épuisées. Mais quand ils sont dans un contexte un peu cadré, organisé, pour exactement. Cadrer des supporters, c'est beaucoup plus facile que quand vous avez des grappes de supporters partout qui, en plus, du coup, ne mettent pas leur
De toute manière, arrêtez, James,
c'est un cercle vicieux. Quoi.
C'est contre-productif depuis le départ, cette interdiction de déplacement. Moi, je l'entends l'argument. De manière, je m'en choue de l'avis du côté des forces de l'ordre. Mais là, pour le coup, effectivement, quand on interdit les déplacements, quand on interdit l'encadrement possible d'un déplacement, quand on se prive de l'outil qui est un parquage, parce que le parquage visiteur, je pense, c'est un outil pour mieux cadrer les supporters adverses qui viennent visiter l'équipe. Justement, t'as besoin de plus de nombre de forces de l'ordre pour contrôler tout ça. Et en fait, quel est l'intérêt? Alors, je pense que les interdictions à la rigueur, on a connu beaucoup d'événements tragiques dans le pays, sans parler des mouvements sociaux de l'année dernière qui ont été ce qu'ils ont été, mais qui ont fait que peut-être que ces interdictions de déplacement étaient justifiées. On était en état d'urgence pendant longtemps, ça il faut pas l'oublier. Donc quand la loi, de cette manière, la loi est votée, elle a pour devant le Sénat en 2011 pour justement encadrer et interdire les déplacements, il y a bien écrit que c'est en quelque sorte pour instaurer un couvre-feu en cas d'état d'urgence exceptionnel. Là, je pense qu'on est sorti de cet état d'urgence exceptionnel et j'aimerais bien justement avoir le nombre de forces de l'ordre mobilisées en cas d'interdiction de déplacement et le nombre de forces de l'ordre mobilisées quand les déplacements sont encadrés. Et je pense qu'on serait surpris de voir que les flics, on en a plus besoin quand on interdit les choses.
Déjà, alors pour un match, parce que je reviens un peu en arrière, mais déjà un match. Les forces de l'ordre, elles décident unilatéralement de combien de forces de l'ordre va encadrer un match. D'ailleurs, faut pas oublier que en France, les clubs, c'est facturé, hein, ils payent. On sait pas combien il y en a. Et donc, nous, souvent, la question qu'on pose, attendez, quand vous nous dites qu'il y a pas assez de forces de l'ordre, mais dites-nous déjà combien vous estimez le nombre estimé nécessaire. On sait pas. On a l'impression que c'est secret défense, etc. Donc, ça devient ubuesque. Et en plus, on en revient, parce que on parle du cas de Strasbourg-Francfort, mais qu'est-ce qui s'est passé pour la finale de la Coupe d'Europe? Il y avait combien de supporters de Liverpool qui n'avaient pas de place au stade et qui étaient dans les rues où ça s'est bien passé, ça a été la fête, etc. C'est carré.
Attends, je te
en
coupe,
Allemagne, ça existe.
Justement,
ça existe un peu partout.
Ça,
et là,
ça
juste
peut
pour
être
finir, juste pour finir. Au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse hypocrisie, c'est que de toute façon, c'est inapplicable. Je vous prends un des derniers matchs, Rennes-PSG. Interdiction de centre-ville. Alors, j'ai plus les détails en tête, mais interdiction de centre-ville pour les supporters du PSG qui n'ont pas de place. Mais il n'y avait que des supporters du PSG, en plus en plein été, etc.
Oui, et bien sûr.
Donc il n'y a pas de souci.
Et ça crée du danger en plus. Rappelons-nous ce qui s'est passé au dernier Marseille-Lyon, là. Lyon-Marseille, en 2018, les supporters qui finalement sont déplacés légalement, parce que pas sans couleur, sans écharpe de l'Olympique de Marseille, qui sont retrouvés en tribune avec les Lyonnais, et ça a fait des incidents. Ouais, donc ça, c'est la porte ouverte à aussi ce genre de dérive.
Mais exactement. Et là où on en vient, où on commence à avoir un peu les prémices, c'est là où on se demande quel est le but de la manœuvre, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, c'est les ultras ou les groupes structurés qui vont être ciblés pour être encadrés, etc. Ouais. C'est là où va se concentrer l'organisation. Et si jamais il y en a qui ne respectent, soi-disant, qui sont arrêtés pour ne pas avoir respecté l'arrêté, c'est quoi? Ça va être non seulement les groupes ultras, et qui c'est qui va apprendre des interdictions de stade, même si normalement ils sont même pas passibles d'interdiction de stade? C'est les leaders des groupes. Donc,
pourquoi les leaders? Parce que d'entrée, on dit, bah, puisqu'on n'arrive pas à déterminer, par exemple.
C'est ce qui s'est passé à Strasbourg, c'est ce qui s'est passé à Saint-Étienne, c'est ce qui s'est passé à Nice, c'est ce qui s'est passé à l'époque à Paris, etc. Donc, en gros, vous avez des personnes comme moi qui sont habituées à avoir des discussions et des gens autour de la
table. Qui sont habituées aux us et coutumes du déplacement aussi.
À organiser le déplacement pour les
surtout. À la logistique, à comment s'organiser pour éviter de faire les itinéraires.
Qui, du coup, eux, se retrouvent plus dans les discussions. Et ça, mais enfin, il n'y a même pas besoin de m'inviter. Moi, vous m'invitez n'importe quel acteur des flux de supporters de sécurité, il vous dira c'est contre-productif. Vous invitez des forces de l'ordre, je ne parle pas des décisionnaires au ministère qui ont l'habitude d'encadrer, ils vous diront la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fermé les portes, on se retrouvera avec tous les acteurs. Donc, on est tous d'accord là-dessus.
Pour résumer.
Ça peut être quoi la suite alors?
Voilà, c'est ça. Que préconise l'ANS?
Nous, déjà, on aimerait bien avoir une chose, c'est qu'il y ait une position claire du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est de l'ordre public? Est-ce que c'est de la lutte contre la violence? Est-ce que c'est de l'encadrement des supporters, etc.? Admettons, comme ça a l'air d'être plus la norme, c'est de l'encadrement des supporters. Mais ne venez pas avec une idéologie. Il faut des bus à une heure d'autoroute et c'est ça la panacée. Il y a d'autres solutions.
Non.
Pourquoi pas réfléchir des fois au train? Pourquoi pas réfléchir à comment accueillir les gens dans une partie de la ville? Ça peut exister. Et pourquoi aussi aller se prendre la tête quand il y a des matchs où c'est pas nécessaire? Et puis après, c'est pareil. En fonction des forces de l'ordre, il y a aussi des choses qui peuvent se faire entre les clubs, les forces de l'ordre, etc. Qui gère tel parti, qui gère ça. J'ai pas la solution miracle et nous, on l'a pas.
Mais même juste qu'il faudrait dans la clarté.
Alors, la clarté par rapport, et ensuite,
ce qui est important aussi, c'est d'arrêter parfois de prendre les supporters pour des abrutis, que ce soit de la part de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur. Quand tu dis qu'on interdit un déplacement vers Nice parce qu'il y a la fête du citron de Menton, ou qu'il y a l'ouverture des soldes, ou qu'il y a une foire, ou une brocante, ou je sais pas où, faut aussi faire preuve d'un petit peu d'intelligence.
Les préfets, en fait, ils se couvrent.
C'est pas génial. Oui, mais je pense que les supporters sont pas dupes, mais ça fait monter la colère des supporters aussi d'être traités comme des idiots quand même.
Jérôme est souvent allé à la fête du citron à Menton.
Écoute, j'ai passé mes vacances à Menton, je me suis régalé.
Excellent,
et les
citrons sont très bons. Ouais.
Exactement. Ah oui.
Franchement.
Jérôme est plus spécialisé dans la fête du melon à Cavaillon.
Menton, c'est terrible.
C'est une maison de retraite vivante.
Oh, c'est moche.
D'accord.
Mais les citrons de Menton. Comment tu peux dire que c'est moche, Menton?
Alors, si Menton c'est moche, Vintimille c'est quoi alors?
Il est malade ce mec. Menton c'est moche.
Mais tu fais 10 km de plus à Bordighero, à San Remo, tu vois une différence.
San Remo c'est plus joli que Menton?
C'est une blague ou quoi?
Non, mais c'est toi qui te blagues. Le centre-ville de San Remo c'est plus joli que le centre-ville de Menton.
Ah ouais, mais je crois que.
Non, Daniel, là c'est pas possible. Ça fait longtemps que t'es pas allé à Menton.
Ouais, je pense que ça fait longtemps. Du moins, il a jamais été.
Moi, je suis allé récemment dans les deux villes.
D'une ville à l'autre.
Je me suis dit, mais San Remo, c'est dégueulasse.
Mais c'est extraordinaire. Mais vous êtes
franchement, Menton est
le centre-ville de Menton avec Brioche Dorée, Paul et toutes les marques à la con qu'on voit dans tous les centres-villes français. Ça, c'est beau. Mais les gars, mais vous êtes tombés sur la tête. Menton, ça ressemble à rien du tout.
Et San Remo avec les vendeurs de faux sacs.
La place du marché, elle est très belle à Menton.
Sur la plage.
La place du marché, elle est très belle.
T'es allé dans la ville.
Bon, ce débat n'a rien à voir dans l'after.
Mais tu ne peux pas dire un truc pareil.
C'est pas tous les gens de Menton, je reprends, ils passent leur temps en Italie tellement ils n'en peuvent plus être là-bas.
Parce qu'ils savent faire du café.
Mais oui,
ils savent tout faire. Ils n'ont pas envie de voir les touristes.
Mais je ne comprends même pas que vous puissiez dire. Mais Menton, le centre-ville, avec toutes les boutiques que tu vois dans tous les centres, pas. Mais
nous, avec Jérôme, on aime Menton.
Moi, j'aime la place du marché.
On fait un coucou à la mairie de Menton.
Voilà, on vous embrasse.
On les traquer en citron.
Et vos citrons, ils sont magnifiques.
Des glaces au citron.
Magnifique.
Mais le plus mauvais des glaciers dans un trou en Italie, il en fait des mieux.
Il y a un citronnier, je t'emmènerai.
Parce qu'en fait, vous ne connaissez rien, vous n'avez pas de goût.
Juste pour appuyer sur
les citrons, nous embrasse les mentonnais.
C'est très important ce que disait Jonathan sur le fait de la considération des supporters. Mais même pas seulement des supporters. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir franchir le pas pour les autorités de se dire on a des interlocuteurs, on a besoin d'interlocuteurs. On les écoute, on les considère et on écoute, on se dit que ce qu'ils disent, c'est pas tout le temps des conneries. Et c'est pas seulement pour les supporters, hein. Que ça soit pour la Ligue, que ça soit pour les gens des clubs, etc.
L'ouverture des soldes,
déjà, si on commençait par ça, on pourrait déjà avancer.
Alors, quelques témoignages. Et vous allez voir que, évidemment, dans l'after, tout le monde est le bienvenu puisque Thierry est supporter messin. Salut Thierry.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Thierry.
Ça va Thierry?
Comment tu peux parler à
Gilbert? Oui, ça va.
C'est compliqué.
À Metz, on est bien placé pour connaître ce problème parce que ça fait des années qu'on le subit.
Ouais.
Par exemple, à Strasbourg. Bon, moi, je vous précise, je suis pas encarté d'un groupe ultra. Je suis un supporter indépendant. Et ben, je vais pas faire les déplacements parce que j'ai pas envie d'aller dans un bus officiel. J'aime bien prendre ma voiture, aller avec des amis et aller voir un match.
Et du coup, tu te sens entravé dans ta capacité à te déplacer, quoi, clairement.
Voilà, c'est ça. Par exemple, il y a des supporters de Metz qui habitent en Alsace. Et ben, ils prennent leur voiture, ils vont prendre un bus officiel 4 heures avant la rencontre pour faire 2 heures de bus, attendre 1 heure au péage pour après rentrer au stade. C'est une aberration. Il y en a plein des exemples. Si on prend l'année dernière, un match entre Metz et Lens, où les supporters lensois étaient interdits, il y avait une interdiction de se déplacer dans un rayon de 5 km autour du stade. Et ben, à 5 km et 100 mètres, il y avait des CRS positionnés pour attraper les supporters de Lens. D'ailleurs, certains ont fini au poste. Ils ont même voulu défiler avec des supporters ultra de Metz pour prouver que...
Oui, parce que là, c'est un paradoxe, Thierry, c'est que du coup, ça crée une solidarité entre ultras des différents clubs, entre un groupe de supporters des différents clubs.
Moi, c'est l'impression que j'ai.
Thierry, après, il faut dire une chose. Je comprends la liberté et le plaisir que tu peux avoir d'aller au match dans ta voiture avec tes amis, mais il faut aussi se rendre compte que il s'est passé pas mal de choses en France sur les 5-6 dernières années, et que si le compromis à trouver pour que les supporters se déplacent dans le stade adverse, c'est que les déplacements soient organisés en bus ou, comme James te disait, en train. Bon, bah voilà, tu ranges ta bagnole, tu vas passer, au lieu de mettre 2 heures, tu vas passer 4 heures avec tes potes à chanter dans le bus, et ça sera tout aussi bien.
Bah, j'ai fait les deux, je connais les deux. Mais résultat des courses, avant on avait 2 à 3 000 médecins dans le parcage de la Méno, et maintenant on en a 600. Voilà, et c'est malheureux parce qu'on vit des stades. Dans l'absolu.
Alors, si vraiment, t'es passé de 3 500 à 600 médecins juste parce que il faut prendre un quart et que tu peux pas aller en voiture, c'est que voilà, il y a peut-être un souci aussi.
Il y a une nouveauté là. Et ça, James, c'est important, c'est que maintenant les clubs s'emparent du problème. Nice l'a fait récemment, et ça, c'est quand même une première là. C'est daté il y a quelques jours. L'OGC Nice a fait un communiqué officiel en disant voilà, nous maintenant on en a marre, arrêtons, stop. Je résume en gros, je vais pas relire tout le communiqué, mais en gros. De soutien aux supporters suite à un arrêté. Les clubs étaient en général plutôt frileux ou essayaient de négocier avec les préfectures. Voilà. Là, le fait qu'un club sorte du bois et se positionne, c'est très nouveau.
Oui, alors c'est pas les premiers, mais je crois que tout le monde a besoin de ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la considération des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les clubs qui essayent de jouer le jeu et qui se rendent compte de ce que nous on leur dit depuis longtemps. C'est-à-dire que quand ils y vont et que même s'ils ont fait le taf, que ils ont fait tous les efforts nécessaires, etc., et puis qu'on leur dit ah bon non, de toute façon ça va pas être possible, à un moment ils disent là on peut pas continuer comme ça. Et on va se retrouver justement au moins au début du débat, c'est-à-dire. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? Et là, le jeu en ce moment, c'est d'essayer d'inciter les autorités à se dire, mais maintenant, arrêtez de venir avec votre idéologie. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? Parce que c'est pareil, les histoires de bus. Les histoires de bus, ça peut marcher à un moment donné. Mais moi, j'ai un cas. Alors, c'est un match, aire d'autoroute. Alors, le rendez-vous et tout. Alors, comme c'est les ultras, parce que forcément, qui c'est qui arrive à s'organiser d'écart? Bah, c'est pas le père de famille avec ses enfants, c'est pas le lambda. Donc, vous avez en gros que des supporters organisés. Ah, c'est très bien, hein. Ça s'est bien passé, ils ont été contrôlés deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Bah, du coup, il y avait personne pour assurer la sécurité à l'entrée du parcage à main. Bah, incident entre pauvres lambda, enfin, vous venez avec vos mômes et tout, bah, ça arrive, ça s'accroche. Il y a des incidents, mais juste, c'est pas une question d'affrontement entre supporters. Ça peut arriver qu'au tour d'un stade, il peut y avoir des anicroches. Et bah, là, vous n'avez plus de force de l'ordre.
Ça, je suis d'accord.
Donc là, c'est complètement ridicule. Il faut un moment être pragmatique. Si vous n'avez pas les moyens, et si, finalement, ça vous cause plus de problèmes que ça n'en résout d'aller faire un rendez-vous sur une aire d'autoroute, eh ben, on essaie de trouver une autre solution.
Mais de toute manière, là...
Je veux remercier Thierry. Thierry, merci pour ce témoignage et t'es le bienvenu à Strasbourg, Thierry. Hein.
Pas de problème, merci.
Si tu veux venir manger voir de la Coupe d'Europe, viens à Strasbourg. C'est ça, ce que tu
veux. C'est pas moi qui l'ai dit.
Bah non,
j'ai dit ça.
Ça sentait un peu le. T'as vu, Daniel?
Vous savez ce qui m'est arrivé? Tu sais que moi j'ai dit ça.
T'as vu comment il est, comment il écrase la Lorraine, les trucs.
Le pour le médecin qui
est dingue. J'ai osé faire un chambrage comme tu viens de le faire là sur RMC Sport 1 lors du match contre AFA. Je me suis pris un écho dans Républicain Lorrain en disant mais que Brimois pour qui se prend.
Ludo, t'en veux beaucoup. Ludo, t'en veux beaucoup.
Pourquoi tu me compares? Moi, j'ai pas vu.
Bon, moi, ça m'a fait rire.
Bon, bref.
Autre témoignage pour conclure le débat. On va prendre Mbarek qui est là. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, toi, t'es supporter, ni moi.
C'est ça. Et donc, pour moi, pour expliquer un peu le problème, c'est que l'année dernière, on est monté en Ligue 1. 25 ans après, donc moi, j'étais 9 ans, donc c'était la première fois que je découvrais la Ligue 1. Et on se faisait un plaisir de découvrir les stades à l'extérieur. Voilà, on a été à Lyon, à Monaco, à Nice. Mmh. Et on devait aller au Vélodrome, donc c'était au mois d'avril. On devait, un samedi après-midi, ensoleillé, on devait être plus de 2000 au Vélodrome. Et trois jours avant, une semaine avant, on nous annonce qu'on peut pas y aller. Personne n'a compris parce qu'à l'aller, ils étaient venus à 900 au Costières. Il n'y avait eu aucun souci, tout s'était bien passé. Et donc voilà, on a été privés de ce beau match, de découvrir ce stade mythique. Donc ça a été vraiment, ça a été terrible pour nous. Et on s'est dit que ça allait peut-être s'améliorer cette année. Et là, on voit que ça, c'est de pire en pire. Déjà, on est mi-août, il y a eu plus de 20 restrictions ou interdictions de déplacement. Voilà, c'est n'importe quoi. La ligne niçoise qui était interdite chez nous, là pour le dernier match, alors qu'il n'y a vraiment pas d'antécédents avec eux. C'est une solution de facilité pour les préfets. Ils vont même restreindre des Reims-Strasbourg, alors que Reims-Strasbourg, il n'y a aucun, c'est pas un derby, c'est pas un... Donc voilà, c'est vraiment nous, c'est un ras-le-bol. Et voilà, on se soutient entre supporters parce que ça touche tout le monde. Et voilà, on espère juste que ça va s'améliorer. Mais malheureusement, les hautes instances s'en fichent, alors que c'est clairement des restrictions de liberté. Donc voilà, un petit coup de gueule par rapport à ça.
Mais Mbarek, le message est passé, merci à toi. Jonathan, pour conclure.
Mbarek a souligné un point qui, à ma foi, est assez important, c'est que le problème, à la rigueur, on aurait pu comprendre certaines interdictions de déplacement, parce que comme quand la loi a été votée en 2011, c'était réservé à des cas exceptionnels. C'est bien ce qui est écrit dans la loi, mais le problème c'est que maintenant c'est devenu une béquille pour pallier à la fainéantise de certaines préfectures qui l'appliquent à tort et à travers. Donc maintenant en fait, t'as vidé de toute sa substance cette loi en lui enlevant sa pertinence. Ça aurait été pertinent sur certains matchs, des matchs à risque que t'as pas forcément envie de que ton centre-ville se transforme.
Oui, non, bien sûr.
L'interdire sur certains matchs, mais il y a des matchs maintenant quand c'est automatique. Ça n'a plus aucun intérêt.
Alors je précise que Sacha Houlier, le député qui est venu dans l'after au printemps, travaille avec un groupe de parlementaires sur un assouplissement de tout cela. Alors est-ce qu'ils vont arriver à le faire? C'est à suivre.
Il y a des auditions qui vont commencer en septembre et elles vont être très larges. Donc au moins, quoi qu'il arrive, il y aura de la matière. Le problème, c'est qu'on a entassé. Pour ceux qui connaissent un peu le sujet, des rapports, des machins et tout, on en entasse et on ressort tout le temps.
C'était la France, le fameux rapport Théodule. Ah oui.
Donc il y a un moment où on attend aussi. Je répète, c'est juste une question de pragmatisme et de savoir qu'est-ce qu'on veut. Je pense qu'on veut tous remplir les stades. On veut tous que ça se passe bien. Alors évidemment, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de risque zéro, donc il y a une nécessité d'encadrer. Il y a un moment où les préfets, il faudra peut-être pas aussi leur couper les têtes dès l'instant où il y a.
Si jamais il se passe quelque chose,
c'est une saucisse qui tombe par terre. Il y a un moment, faut pas non plus exagérer et qu'ils puissent travailler sereinement, parce que on a besoin aussi d'eux de pouvoir travailler sereinement. Et quand je disais d'ailleurs tous les
acteurs. Mais le problème, c'est en fait, je crois, je m'arrête là-dessus. Mais cette histoire de responsabilité où on immédiatement on tape sur la tête du responsable, en l'occurrence le préfet. Toi, tu dis il faudrait que pas.
Ils n'encouragent pas.
Mais toute la tendance à l'heure actuelle, elle est vraiment immédiatement dès qu'il se passe un truc au report de responsabilité sur le préfet ou le. T'as tellement de gens qui se plaignent de tout aujourd'hui.
On se couvre. Le dernier de la chaîne, le préfet se couvre.
Après, nous, on fait le même constat, mais là où il y a quand même en ce moment pas mal de choses qui convergent et qui sont plutôt positives, c'est que, je le répète, vous avez pratiquement tous les acteurs qui sont d'accord pour déjà faire des débats dans les médias et aussi discuter après et faire le vrai travail. Que ça soit la Ligue, les supporters, les autorités, parce que c'est pareil, il y en a certains dans les autorités qui sont pas écoutés par les préfectures. Enfin, voilà, tous ceux qui connaissent un peu le sujet. Ils sont là et il y a des gens pour travailler le sujet. Donc ça, c'est positif.
Ouais, mais on flippe vite. Hein. Depuis le polo Lacoste de Mattei en 2003 pendant la canicule.
Et paradoxalement, aujourd'hui, au niveau des sujets que nous, on a traités, c'est moins sujet à l'émotion. Par exemple, avant, bon, dès qu'il y avait un truc, une émotion, on arrête de discuter parce qu'il y a eu une bouteille de jetée, etc. Ouais. Là, les travaux ne s'arrêtent pas.
Alors, autre sujet, je voulais te demander ton avis. Hier, on a fait un débat sur le retour éventuel de l'alcool dans les stades. On avait un député avec nous, là, qui a défendu lui et son envie. Aujourd'hui, Agnès Buzyn, interrogée par BFM TV ce matin, ministre de la Santé, elle prend le contre-pied, elle dit attendez, moi, je veux pas, je suis ministre de la Santé, c'est moi qui décide, c'est non. Et moi, je réfléchis même à supprimer l'alcool dans les loges. Dit Agnès Buzyn. Donc elle dit pas d'alcool dans tout le stade. Ça, c'est la nouveauté du jour, suite à notre débat d'hier soir. L'ANS dit quoi là-dessus?
Bah nous, on a déjà été entendus il y a longtemps, parce que s'ils travaillaient un peu, là, ces gens-là, ils verraient qu'il y a eu des travaux, notamment une mission sénatoriale. Nous, on dit que ça rentre dans un contexte plus large, c'est-à-dire c'est l'accueil des publics. Si vous dites, ah, bah, faut mettre de l'alcool. En plus, là, c'est la proposition de loi, c'est un truc hypocrite. C'est genre, en gros, là aujourd'hui, il y a de la bière qui est servie, mais via des associations. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est de dire, ah, au lieu que ça soit via les associations, les clubs gèrent ça, c'est 10 matchs par an et tout.
Bon, ça, c'est le cas actuellement.
De poids, de mesure, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Par contre, si c'était comme le début des discussions qu'on a eues il y a quelques années, ça, c'est là. L'accueil des publics en général, et là on réfléchit comment on gère les flux, comment il y a des problèmes de sécurité qui vont être arrangés, c'est-à-dire ce qu'on connaît un peu souvent, bah, comme c'est interdit de boire dans le stade, tout le monde va se murger, il y en a qui vont se murger juste avant, qui vont arriver au dernier moment. Donc
là, bien, les premières demi-heures à certains matchs, tu t'en vois certains étendre un peu. Hein.
Je veux dire qu'après il n'y a pas d'alcool dans le stade, je vois pas vraiment où est le problème.
Ouais, c'est ça.
Ah mais alors.
Ça, moi c'est.
Alors après c'est un autre choix.
Non mais qui en est ou qui en est pas, franchement.
Ouais, voilà. Bah, alors le problème.
D'un coup ça doit faire.
Non. Je veux pas faire l'ivrogne de service. Assuré, mais le problème, c'est que premièrement, c'est une source de revenus potentiel pour les clubs.
Ouais, bah là, tu me parles de business, c'est pas pareil.
Ça, le business, on en a parlé hier de tout.
Et deuxièmement,
je fais comme en Angleterre. En Angleterre, il n'y en a pas dans les stades. Eux, c'est différent. Ils ont le droit de faire la pub sur les maillots, autour du terrain.
Ça fait partie d'un problème global. Mais premièrement, c'est un manque à gagner pour les.
À gagner, donc parle de la pub, mais ne parle pas de la consommation.
Combien la consommation, juste la consommation.
50 millions d'euros par an pour la Ligue 1.
C'est quand même pas négligeable pour certains clubs de Ligue 1. Et deuxièmement, l'hypocrisie, moi, ce qui me gêne, c'est l'hypocrisie symbolique du fait qu'en loge, c'est champagne à gogo volonté, n'importe quoi, tu peux boire n'importe quel
maintenant, ils l'enlèvent maintenant,
et après ça donne quoi, Michael Youn avec un fumigène.
Et le problème, voilà. Non, et pour finir, le problème, c'est que simplement,
dans la loge,
ça va plaire à Paulo ce que je veux dire, mais ça instaure un rapport de classe entre les gens qui peuvent se payer à boire et ceux qui n'ont pas le droit de boire en bas.
En l'occurrence, c'est ça.
Et le stade devrait être.
Si ils ne se payent pas à boire, c'est gratos.
Ouais, alors un rapport de classe entre ceux qui ont une position sociale suffisamment élevée pour être invités en loge et ceux et le petit peuple qui est en tribune.
C'est pas celui-là. C'est pas celui-là le rapport de classe. C'est pas celui-là. C'est en loge, on donne parce que s'ils boivent, ils vont savoir se tenir.
Ah, toi, tu
ceux
dis que...
qui sont en tribune, s'ils boivent, ils vont casser.
Ouais.
Mais c'est plus
c'est
ça.
Pas, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que malheureusement, quand on écoute la ministre, les ministres, parce qu'il y a aussi la ministre des Sports qui est aussi dans ces délires de Twitter, là, de machin, c'est que.
Ah bon ?
Qu'ils arbitrent à la fin. Qu'ils arbitrent à la fin.
Il y a un problème avec
après une réflexion.
Mini des sports.
Je pourrais revenir.
Vas-y, James, enchaîne.
Si elle a légalisé le MMA, ça va, laissez-la tranquille.
Si après une réflexion, il y a un arbitrage et finalement, au vu des discussions, des auditions que j'ai eues, bah, il s'avère que on va pas prendre cette décision. Ok, que ce soit pour santé publique, sécurité, machin. Mais là, on entre plus dans ce que vient de dire Daniel, c'est qu'il y a un mépris des supporters en général, d'ailleurs sur les autres sujets, et que là, c'est en gros, c'est ah mais non, si ouais, ça va être le bordel.
Mais c'est un mépris de classe.
Ce qui n'existe pas. Ouais. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire, s'ils travaillaient un petit peu, ils verraient que ça n'existe pas. Après, si c'est juste un problème de santé publique, alors là, effectivement, il faut l'interdire.
Dans ces cas-là,
il
faut l'interdire
partout. C'est un mépris de classe.
À proximité du stade.
C'est un mépris de classe pour les gens qui sont en tribune, parce qu'on considère que ce sont des animaux, du petit peuple, des prolétaires qui, au bout de deux pintes, vont aller.
Là, c'est pas la position de Daniel, mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir quand on lit les déclarations des ministres. Et c'est malheureux d'avoir des ministres qui prennent de tels propos et qui ont ce genre de position.
James, merci d'être venu. On se soutient tout ça, toutes ces histoires. Ça a provoqué beaucoup d'appels au 32-16 ce soir. Donc, il y a beaucoup de supporters concernés et énervés par tout ça.
Supporters adverses bientôt dans les stades. Voilà. On a compris.
Ça semble être une grosse tendance.
C'est la tournure. Quand même.
Ouais. Bah oui.
Merci James, à bientôt.
Merci à vous.
À bientôt.
Dans quelques instants, on part en Allemagne, retrouver Paulo Breitner et puis encore plein d'actes à vous faire partager d'ici minuit. Avec Paulo, on va parler du Bayern où il se passe plein de choses. On va parler de Francfort. Que beau Francfort cette année.
J'ai une question pour toi.
Et puis Ribéry aussi également.
Laquelle est meilleure, saucisse de Francfort ou de Strasbourg ?
C'est une provocation. Je ne répondrai pas.
Bah, je te pose.
La réponse est tellement évidente. La nôtre, la knack, elle claque sous le
nez. J'ai bu du whisky strasbourgeois, c'est dégueulasse. Whisky alsacien.
Est-ce qu'on va manger du couscous en Irlande ?
Welsh whisky, ça s'appelle.
Essaye un jour les saucisses du Lyonnais. C'est un peu mieux que celles de Strasbourg. Je suis désolé.
Elles sont roulées avec les pieds.
Ah. Essaye les saucisses du Lyonnais.
Il n'est jamais venu avec moi à Strasbourg manger les saucisses.
Arrête de te dire, j'ai jamais venu. Strasbourg, je connais pas.
Il a fait
une fois. J'ai toutes les saucisses de la terre là-bas. Et je suis allé dans tout ce qu'il y a de mieux.
Si t'as mangé un kebab à Strasbourg, c'est pas là qu'il fallait aller. Bon, allez, à tout de suite dans l'after. On se retrouve dans quelques instants.
Les saucisses du Lyonnais, salut.
RMC, l'afterfoot, Gilbert Bribois.
L'after est là jusqu'à minuit, Jérôme.
Gilbert.
Jonathan McCarthy, Daniel Riolo, avant d'accueillir Paulo Breitner.
Un petit appel pour les auditeurs qui veulent nous rejoindre avec la Peña française de Boca. On a rendez-vous à minuit et quart, juste après l'émission, pour le quart de finale aller Quito Boca Junior, au Volver, rue Dauphine. Donc allez, aux 5 premiers auditeurs de l'after qui viennent, je leur paye ma tournée Quilmes.
Oh, joli ça, dis donc.
Écoute, avec des fous furieux.
Petite Quilmes, bien fraîche, c'est bon.
Attention, en Ligue de Quito, grosse équipe.
Exactement. Mais pour voir Daniele De Rossi avec le maillot de Boca Junior en Copa Libertadores, ça vaut quand même le coup. Donc s'il y a des auditeurs qui veulent venir.
Mais d'ailleurs, tiens, la Copa Libertadores, là, on a atteint les quarts de finale.
Ouais.
Match aller des quarts de finale, il y a eu un match entre Grêmio et Palmeiras, je crois, ou Corinthians. Corinthians, non, l'année dernière.
Je crois que c'était Corinthians.
Qui a gagné 1-0 à Grêmio. Donc là, il y a beaucoup de clubs brésiliens qui restent. Mais il reste River et Boca.
Il reste River et Boca et potentiellement une demi-finale River-Boca.
Oh, y a. Bon, on t'embrasse Saint-Carlos.
Il y a plus Pipa. Ouais.
Ça va encore se jouer au mois de novembre, cette histoire.
Il y a plus Pipa pour marquer les buts face à River, à Boca.
Ah bon, pourquoi?
Il est à Marseille maintenant.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, attention, les Équatoriens.
Il a failli marquer. Et c'est là-bas, c'est là-bas en plus.
Voilà, exactement.
Il y avait un trou.
Il a failli marquer le pauvre.
Non, mais.
C'était pas le Miras que t'as dit sur. C'est pas le Miras qui gagnait 1-0.
Que t'as dit sur Pipa hier, et t'as totalement raison.
Merci. Ah, t'as bien aimé la complicité
en vrai, j'ai vu
entre Payet et.
Ouais, t'as raison.
Merci.
Et puis il y a aussi Flamengo International, donc encore deux autres clubs brésiliens. Les clubs brésiliens sont les plus représentés en quart de finale.
À Quito, c'est toujours compliqué comme match.
Attention, de Quito, on va passer à Leipzig avec Paulo Breitner. Oh, changement d'univers.
Pourquoi tu veux toujours l'envoyer à l'Est?
Parce que Paulo à Karlsruhe, c'est quand même moins sexy que.
Mais Paulo, tu ne pas qu'il va se rincer à Munich et que c'est le Bayern qui le fait principalement.
Je ne sais pas. Moi, je pense que la ville préférée de Paulo en Allemagne, c'est Berlin. On va lui demander. Salut Paulo!
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Déjà, saluons la qualité de cette liaison.
Enfin, on va pouvoir discuter. Hein.
Bravo Polo. la plus belle ville d'Allemagne?
Ça dépend ce que tu recherches. Cologne est fabuleux. Berlin, moi j'adore parce qu'évidemment c'est historique. Nuremberg est très très spécial.
J'étais sûr que tu allais citer Nuremberg.
Pardon?
J'étais sûr que tu allais citer Nuremberg.
Non, mais c'est une très belle ville.
Et Hambourg?
C'est une population beaucoup moins aisée que celle de Munich, parce que c'est souvent des personnes qui sont immigrées des pays de l'Est et beaucoup plus sympathiques. Pour
entre les vacances à Nuremberg ou à San Remo, tu choisis quoi?
Nuremberg, évidemment.
Voilà.
Bah oui, dégueulasse San Remo.
Il fait trop chaud en Italie.
Il fait trop chaud, je vais pas le dire à chaque fois. Dès qu'il fait plus de 10 degrés, je m'en déglace. Moi.
Bon, alors, actu Polo, Ribéry qui signe à la Fiorentina, qu'est-ce qu'on en dit en Allemagne? Est-ce qu'on se dit, il a réussi à trouver un club alors que finalement il est cramé? Ou est-ce qu'on se dit, tiens, la Fiorentina a fait le bon coup du mercato? Qu'est-ce que tu entends ou tu lis là-dessus?
Ce qui est très clair, c'est qu'on ne se posait pas trop la question de savoir si Ribéry allait rester en Allemagne, donc c'est traité comme une information banale en fait. Moi, le souci que j'ai, c'est qu'il a 36 ans, c'est que ces dernières saisons, il était souvent blessé, notamment l'année dernière. Et puis, il a toujours des problèmes musculaires. Alors, on sait très bien que la carrière de Franck Ribéry a été la meilleure lorsqu'il était à 200% de ses capacités physiques.
Il a besoin d'être 2013, physiquement très en forme.
Très clairement, l'année où il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern, c'est pas qu'il était moins bon, mais il a toujours eu des problèmes. Quand c'est pas des blessures à la cheville, quand c'est pas des blessures lombaires, c'est depuis l'année dernière, c'était assez catastrophique. Hein. Toutes les trois semaines, tous les mois, il avait des problèmes, j'ai envie de dire, liés à son âge, des problèmes musculaires qui étaient systématiquement et qui l'empêchaient d'être performant.
Ben oui, mais Polo, on n'a pas le droit de dire que la Fiorentina a peut-être pas fait une bonne affaire avec un joueur de 36 ans. C'est-à-dire, il faut se prosterner.
Je pense que la Fiorentina a des objectifs. Je suis pas persuadé de faire signer un contrat de 2 ans à un joueur de 36 ans qui encore une fois a été souvent touché me perturbe un petit peu quoi. Qu'il fasse une dernière pige, ça me dérange pas, sauf que la Fio elle a quand même une
qu'il fasse deux trois bons matchs et qu'il mette un ou deux buts, il y a pas de problème aussi, mais bon.
Oui, non, mais je dis pas qu'il a. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra pas s'attendre au Franck Ribéry qu'on a pu voir au Bayern. Faut être très très clair. Maintenant, ils peuvent très bien le gérer. Ils peuvent le faire tourner, etc. Donc, moi, je lui souhaite tout le meilleur, évidemment, en Italie.
Alors, petite info qui vient d'arriver là, une petite info mercato. Vous retrouvez ça sur rmcsport.fr. Renato Sanchez veut aller à Lille.
Déjà, on veut plus de lui au Bayern, mais Lille, filière portugaise.
Voilà.
Oui, bon, c'est un peu plus complexe que ça, parce que c'est, moi, j'aimais beaucoup Renato Sanchez, évidemment, Golden Boy en 2016, champion d'Europe, etc. Lorsqu'il joue au Portugal, j'adorais ce joueur. Le problème, c'est qu'il s'est plus ou moins cramé au Bayern, il a jamais réussi à prendre sa place dans la chez les titulaires. Mais derrière le cas Renato Sanchez, c'est plus, la stratégie, en fait, du Bayern Munich depuis quelques années, qui montre tous les soucis actuels. Il suffit de se rappeler ce qui vient de se passer depuis le début du championnat. Donc, rappelons que le Bayern fait Coutinho, Perisic, et Cuisance, où Lyonnaise déclare en gros que le mercato du Bayern, c'est fini. Il y a le match contre l'Hertha Berlin, le 2-2. Renato Sanchez ne joue que 5 minutes. Il est très frustré, il sort du vestiaire, il déclare qu'il veut partir du Bayern. Il se fait rabrouer, évidemment, par Rummenigge, qui, quelques jours après, déclare que finalement, on va peut-être pouvoir lui ouvrir la porte. Et Rummenigge inclut dans le départ possible de Renato Sanchez, Jérôme Boateng, où on attendait d'ailleurs qu'il parte depuis des semaines, mais on nous fait comprendre que finalement, il est bien là, il est bien au Bayern. Tu vois, bon, le problème qu'on voit derrière ça, c'est tout ce que j'entends, moi, en Allemagne, et je le dis, moi, d'une façon relativement gentille. Beaucoup de journalistes allemands sont beaucoup plus critiques sur ce qui se passe au Bayern Munich depuis quelques années, sur les stratégies de développement du club, qui sont liées aussi aux successions qui vont avoir lieu logiquement cette année avec Uli Hoeneß, mais aussi avec Karl-Heinz Rummenigge en 2021. Si vous pouvez m'expliquer quel est le rôle du directeur sportif Salih Mitic au Bayern Munich, je suis tout oui.
Et je vous pose une
petite question.
Et il fait les photos quand un mec arrive.
Ouais, c'est en gros c'est ça quoi, et c'est un peu compliqué. Alors bon, là c'est un peu méchant ce qu'on dit sur lui, mais il bosse. Mais tu vois, c'est tout le problème de l'organigramme du Bayern Munich. Je voudrais juste vous poser une petite question, une petite colle. Je vous ai cité Hoeneß, Rummenigge et Salih Mitic. Est-ce que vous pouvez me citer les trois du Borussia Dortmund?
Est-ce qu'il y a
Bah si, il y a Zorc, ouais.
Alors, Zorc, c'est le directeur sportif, ok.
Historique, le président, je sais pas.
Non, les autres, on ne sait pas.
Mathias Zammer, il n'est pas là.
Là, vous avez Watzke pour le
Ah oui, Watzke qui est le big boss.
Pour le rôle de Rummenigge. Et l'autre, personne ne le connaît, alors que c'est l'un des personnages les plus importants d'Allemagne. C'est Raubal, qui est le président aussi de la Ligue de football professionnel. Et on ne l'entend jamais. C'est-à-dire que vous voyez qu'on entend toujours Uli Hoeneß d'un côté, et on n'entend jamais Raubal à Dortmund. Parce que c'est pas son rôle, en fait, de s'exprimer systématiquement. Le vrai patron du Bayern que nous voyons, c'est-à-dire sur le terrain tous les week-ends et en Coupe d'Europe, c'est Rummenigge, et Hoeneß s'exprime toujours. C'est ça qui est un petit peu problématique aujourd'hui.
Oui, mais c'est problématique à quel niveau? Parce que le Bayern continue d'écraser la concurrence en Bundesliga. C'est problématique pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on espère du Bayern? En fait,
c'est problématique parce que des choix stratégiques qui vont être faits au Bayern Munich et qui ne sont pas faits depuis quelques années. En gros, Hoeneß est là depuis 40 ans, on sait qu'il va passer la main, on sait qu'il y a des conflits avec Rummenigge, qui était, ne l'oublions pas, son ancien porte-flingue, qui a pris sa place à l'époque en tant que manager du Bayern Munich, aujourd'hui en tant que président du Bayern Munich. Et les choix stratégiques, c'est pas compliqué, Daniel. Soit le Bayern Munich choisit, j'ai envie de dire, la voie des clubs globalisés à 100%, comme sont le Real, le Barça, la Première Ligue, ou les têtes d'affiche de la Première Ligue, le PSG, etc. Soit on reste encore dans un club relativement familial, je dis bien relativement, puisque le successeur d'Uli Hoeneß, représenté en fait par Uli Hoeneß, c'est ce qu'il avait réussi depuis 40 ans, c'est-à-dire une gestion extrêmement saine, etc. L'ouverture du capital du Bayern Munich AG d'une façon relativement restreinte, puisque n'oublions pas que trois des principaux actionnaires du Bayern Munich, c'est Adidas, c'est les trois A, hein, Adidas, Audi et Allianz. Adidas, pardon, qui devrait d'ailleurs, via Herbert Heiner, prendre la succession du Lyonnais. C'est assez intéressant de voir comment va évoluer le Bayern. Et en fait, t'as beaucoup de questions. C'est quoi le Bayern? C'est-à-dire que si les autres font des transferts à 200 millions, est-ce que le Bayern doit faire des transferts à 200 millions?
Cette année, ils ont claqué.
Ils ont claqué, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Et d'ailleurs, tous les problèmes.
C'est quoi ton point de vue? Qu'est-ce que devrait faire le Bayern? Il devrait s'aligner en matière de transfert sur ce qui peut se faire en Angleterre, en Allemagne, en Espagne ou ailleurs, parce que de toute façon, ils ont l'argent et c'est un club très riche. Il devrait accélérer la transition. Il devrait ouvrir le capital.
Il y a beaucoup de problèmes juridiques derrière, parce que n'oublions pas que ces trois sociétés que je vous ai citées, Adidas, Audi et Allianz, détiennent 25% de l'ensemble du capital du Bayern. Le reste, c'est l'association, donc qui est présidée par Uli Hoeneß. C'est-à-dire qu'ils ont déjà ce qu'on appelle des minorités de blocage. C'est-à-dire que là, on tombe dans des logiques de gros actionnaires. Tu vois, c'est le gros capital.
Paulo, cette saison, quand même, il me semble que le changement a été amorcé. Ils ont quand même dépensé 60 ou 80, je sais plus, sur Lucas Hernandez. Ils étaient prêts à dépenser une somme folle sur Leroy Sané avant qu'il se blesse. J'ai l'impression qu'on est en train de changer un petit peu de paradigme et que là, ils sont en train d'envoyer les gros sous sur certains joueurs.
Oui, on est d'accord, mais le problème, c'est que Leroy Sané, il était déjà en Allemagne en 2016, et donc il le rachète 2-3 fois plus cher.
Ah, mais ça, c'est autre chose. On parlait de, est-ce que le Bayern doit s'aligner sur les clubs globalisés, comme tu les appelles, et faire des très, très gros transferts?
Ils l'ont fait sur Hernandez.
Ils sont en train de le faire, là.
Ils sont en train de le faire, ça veut pas dire qu'ils le feront encore les prochaines années. Par exemple, on pense, enfin, moi, je peux pas le, tant que c'est pas fait, je ne peux pas le valider, mais je suis intimement persuadé que si des joueurs comme Timo Werner en Allemagne, ou celui qu'on annonce comme le futur successeur de Manuel Neuer en équipe nationale, c'est-à-dire Nübel, l'actuel gardien de Schalke, qui n'ont plus qu'un an de contrat et qui, comme par hasard, ne veulent pas prolonger dans leur club respectif, c'est-à-dire Leipzig et Schalke, on peut estimer que parce que le Bayern est derrière pour le récupérer avec un zéro pointé. C'est ce qu'on appelle le cas Lewandowski en Bavière. Donc ça, c'est des très bons deals qu'ils font.
Mais par exemple, quand Lewandowski va partir, à mon avis, ils seront obligés, vu la structure du marché actuel, d'envoyer une somme à plus de 100 millions pour trouver son successeur, quoi.
Oui, mais on verra tout ça. Moi, je cherche pas une vérité absolue en disant qu'il faut pas que le Bayern soit un club globalisé ou pas. Le Bayern aujourd'hui a un peu les fesses assises entre deux chaises. C'est-à-dire, rappelez-vous ce qui s'est passé l'année dernière avec cette fameuse Ligue européenne de football, vous savez, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mmh. Bon, évidemment que le Bayern est à la manœuvre derrière ça. Mais le Bayern, il sait pas trop quoi dire parce que les clubs allemands, ils lui disent, mais qu'est-ce que tu nous fais là dans notre dos là? T'es solidaire avec nous ou t'es pas solidaire?
Ils ont souvent affiché.
Au milieu de l'été, vous avez vu Discretos, l'UEFA, qui a dit oh bon, finalement, on reporte la discussion. Alors que ça avait fait quand même le gros feuilleton du crash de cette affaire.
Ça reviendra, il faut que les clubs décident un peu. Effectivement, le Bayern fait partie de ces clubs où ils sont un peu entre les deux, mais finalement, ça les arrangera bien. Hein.
Ouais.
La ligue fermée.
Alors voilà, l'actu Bayern, on a fait globalement le tour là, Polo. Tu voulais rajouter non, c'était tout. Hein. Oui, tu voulais parler de la recherche du 6 aussi, je crois. Hein,
pardon, ça c'est quelque chose. On n'en parle pas beaucoup dans les transferts, excusez-moi. Mais n'oublions pas que le Bayern Munich, l'une de ses priorités, c'est de chercher un 6 moderne. C'est pour ça, d'ailleurs, que le nom de Kanté, le joueur de Chelsea français, évidemment, est souvent cité. Évidemment, ce n'est plus possible aujourd'hui, mais c'est quand même. On n'en parle pas beaucoup. On parle toujours des ailiers, évidemment. Aujourd'hui, c'est plus ou moins réglé avec Perisic et puis Coutinho, qui, à mon avis, va plus jouer numéro 10 d'ailleurs que sur les ailes. Mais la recherche d'un numéro 6, très très haut niveau, rappelez-vous la rumeur Gundogan, toutes ces choses-là sont réclamées par Niko Kovac, le coach, et ça. C'est intéressant parce que s'ils arrivent vraiment à sortir un bon joueur à ce poste-là, ça devrait logiquement faire remonter Thiago Alcantara un peu sur le terrain.
Ouais.
Ça pose quand même des petits problèmes pour Tolisso, par exemple. Hein. C'est compliqué toutes ces choses-là.
Bah après le 6 d'ici fin août sur le marché, il n'y en a pas des tonnes. Hein.
Ah mais je sais Daniel, mais c'est tout ça, c'est parce que c'est ce qu'on dit en Allemagne, il y a beaucoup de journalistes allemands,
alors ils veulent pas Kevin Strootman
avec vous, c'est du off. C'est ils n'en peuvent plus de la façon dont le Bayern est géré aujourd'hui. Voilà. Hein, le cas typique, c'est Niko Kovac qui a été placé par Uli Hoeness, etc., alors que Rummenigge voulait plus des grands noms. Il suffit de voir ce qui s'est passé après la défaite 2-0 en DFB Pokal, donc la Super Coupe en Allemagne, où Niko Kovac s'est retrouvé tout seul en train de discuter avec Uli Hoeness. En gros, c'est mon parrain, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et vous avez Rummenigge qui évidemment s'était déjà éclipsé depuis longtemps. Donc ces choses-là,
T'as envie qu'il se casse, hein, le père
problème actuel du Bayern.
Non, t'es en train de nous dire que FC Hollywood va revenir.
Non, mais là on n'est pas là. FC Hollywood, c'est autre chose, hein. Pour qui gagnait.
Alors voilà pour le Bayern. On va parler de Francfort dans quelques instants. Juste avant, alors, pour être complet sur Agnès Buzyn quand même, parce qu'on parlait de ce qu'elle disait tout à l'heure là. Sur, en fait, ce matin, elle est avec Jean-Jacques Bourdin qui l'interroge, et en fait, elle découvre Agnès Buzyn qu'il y avait de l'alcool dans les loges. C'est vrai qu'elle ne savait pas. Elle dit je ne savais pas qu'on buvait de l'alcool dans les loges VIP des stades.
Elle n'a jamais été invitée en loge.
Voilà.
Bah pourquoi elle se renseigne pas avec Marseille et à nous.
Ah, tu vois. Il y a quand même une connaissance du dossier qui n'est pas très profonde, Twitter, en l'occurrence.
Ah oui.
Je reparle de ça parce qu'en Allemagne, il y a une politique de vente d'alcool dans les stades, qui est à l'opposé de celle de la France, Polo.
Ou de l'Angleterre.
Oui,
aussi.
Alors. Mais là-bas, ils encaissent bien. C'est un mot bateau, c'est toujours dire, c'est culturel, évidemment.
La bière de soif.
Même si ce sont des bières de soif, mon cher Gilbert.
Oui, les fameuses bières de soif. Assez peu alcoolisé, mais alcoolisé quand même.
Ouais.
Oui, je voudrais juste signaler quand même que lorsqu'on a des matchs qu'on appelle des matchs à risque en Allemagne, c'est-à-dire des derbies très 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 importants comme Mönchengladbach contre Cologne, l'alcool dans les stades n'est pas autorisé. C'est de l'alcool, c'est des bières sans alcool qui sont vendues. Donc c'est des choses comme ça. Je pense qu'il y a Moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup plu tout à l'heure, du mépris de classe. C'est exactement ça, ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est forcément le pauvre qui est violent, quoi. Le riche, lui, il peut faire ce qu'il veut, mais lui, il est jamais violent, quoi. Et c'est exactement ça, ce débat. Le fait que tu annonces, Gilbert, je ne le savais pas, que Madame Buzyn ne savait même pas qu'il y avait de l'alcool dans les loges, me montre à peu près ce que, ou confirme ce que je pense à peu près de cette génération.
Après cette histoire de l'alcool en loge, il faut un petit peu se calmer. Il y a au max une coupe de champagne que tu prends quand t'arrives, si on te la donne, et si en plus tu fais partie de ceux qui acceptent. Moi, je t'ai invité, je bois pas, moi, donc
non, mais tu plaisantes, Daniel. Quoi.
Whisky,
franchement, j'ai jamais vu de mec picoler des trucs sérieux.
Mais ça va pas.
Moi, j'ai déjà vu des gens bourrés dans les loges.
Pardon, si vous avez vu des mecs bourrés en loge, moi, je vois des mecs qui prennent à peine du champagne.
Non.
Mais dans où est-ce que t'as vu ça?
Ah ben partout, dans toutes les loges, et à commencer par.
Mais des qui boivent des alcools forts.
La corbeille au Paris Saint-Germain.
Mais des alcools forts.
Ah ben oui.
Des trucs et tout.
Ah oui. Non, vraiment, il y en a qui.
J'y suis pas assez allé. J'ai raté un truc alors.
De la gratuité.
Gin tonic à volonté.
Mais vraiment, monsieur, à part deux coupes de champagne, j'ai jamais eu des mecs.
Non, plus que c'est ça. Pas dans toutes les loges, mais dans certaines loges où t'as des alcools forts. Oui.
Ouais, j'ai pas fait.
Et puis c'est open bar, quoi. Voilà.
Par du temps, au Stade de France, il y a de l'alcool et ça envoie.
Pas, je te dis, j'ai jamais vu de gens vraiment en descendre beaucoup, c'est tout.
Adrien Aiguin m'envoie un texto, notre ami du journal moyen, qui a une grosse connaissance des loges des stades de rugby, et qui dit, je confirme, je parle en connaissance de cause, dit-il.
Grosse connaissance de l'alcool.
C'est
qui, dit-il?
Adrien.
Ben, c'est différent.
Il va m'en vouloir parce que je l'ai vendu. Passe ça dans le journal moyen demain, si t'as des couilles.
Après, faut pas tomber dans la démagogie absolument stupide. Qu'il y ait de l'alcool dans les loges et que t'as quatre mecs qui s'envoient trois whisky ou deux bouteilles de champagne, évidemment, je pense que ça présentera moins de risques que de foutre de l'alcool en tribune avec des ultras qui peuvent croiser d'autres mecs. Non. Oui, il y a plus de chances. Il faut pas non plus se raconter d'histoire et pas se dire la vérité.
Si tu mets bière
à volonté,
et quand t'es dans une loge,
les supporters tribune, il y a plus de chances que des gars
à volonté
avec CRS que parce qu'un mec s'est fait 4 whisky en loge. Il faut aussi dire la vérité.
On réduit la loge à 10-15 personnes. C'est plus facile de prendre l'ensemble et de les dégager que de dégager toute une tribune, on est d'accord.
Bon, ben voilà.
Donc voilà.
Polo, bouge pas, dans quelques instants, les de retour et tu nous diras tout sur Francfort.
C'est un mépris de classe que de dire ça.
Cette équipe qui était en demi-finale de l'Europa League l'an dernier, rappelez-vous l'aventure de Francfort. Hein, ils avaient quand même, c'est l'équipe surprise, mais ils avaient été très loin. Ils étaient au tir au but, rappelez-vous, par Chelsea. On en reparle dans quelques instants pour
savoir s'ils
affrontent Strasbourg demain.
Le problème, ils tombent sur l'ogre strasbourgeois.
Bah oui, c'est ça. Demain, c'est pas Chelsea.
L'enfer de la Méno.
C'est pas Liverpool. C'est Strasbourg. C'est le problème de Polo. On en reparle
avec
quelques
instants. Ouais, ben.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Supporter de Francfort, on vous attend 32-16. Supporter du foot allemand, on vous attend 32-16. Polo Breitner, il a profité de sa présence pendant encore un petit quart d'heure. Polo, donc demain, Francfort-Strasbourg. Parle-nous un peu de l'équipe de Francfort, qui a perdu quand même beaucoup de ses titulaires de la grande aventure de l'an dernier.
Mais pas du tout. Ont perdu finalement deux joueurs qui sont certes importants, Sébastien Haller et Jovic, évidemment, qui est parti au Real. C'est sûr que c'est intéressant.
C'est pas rien, quand même.
En Bundesliga, ils sont responsables quand même responsables sur 47 buts sur les 60 de Bundesliga de d'Eintracht Frankfurt l'année dernière. En fait, non, l'effectif n'a pas tant chamboulé que ça. Ce qui est sûr, c'est que Freddy Bobic, le manager, a fait un excellent boulot parce qu'il a déjà réussi à récupérer trois joueurs qui étaient prêtés l'année dernière. Donc évidemment, Kevin Trapp, le Parisien, mais aussi Hinteregger, l'Autrichien, qui en fait appartenait à Augsbourg. Et surtout, il a récupéré Sébastien Rode, qui vient du Borussia Dortmund. Et donc, en fait, c'est quasiment la même équipe que l'année dernière, à la différence du fait qu'on n'a pas remplacé deux joueurs.
Oui, les deux meilleurs attaquants quand même.
Ouais, enfin il y a Rebic qui est là encore, hein, c'est pas mal du tout. T'as Kasinovic, t'as Kostic sur le côté gauche, tu vas voir ce qu'il va te faire demain.
la petite promesse.
Ouais. La promesse et puis le mec fait rien. En fait.
Oui. Il faudrait juste vous rappeler le parcours de Francfort l'année dernière quand même.
Moi,
exceptionnel ce qu'ils ont fait.
Polo, je te rejoins.
C'est-à-dire tu mettais billes sur Francfort plutôt que Strasbourg, c'est ça?
Ben, je sais pas si je peux pas le dire, tu sais, depuis une semaine quand même, enfin depuis que le match est officiel, la rencontre est officielle entre Strasbourg et Francfort, Gilbert connaît les origines de ma dulcinée et je suis à la boîte de conserve quand même, quoi. Donc,
Hôtel du cul tourné, boîte de conserve.
La boîte de conserve.
Il est cerné, le pauvre Polo, à la maison et à l'antenne. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais que tu as une liberté de ton total, hein, donc tu peux dire ce que tu penses.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que avec sur le match de demain, déjà tu as l'expérience pour Francfort quand tu sors d'une demi-finale.
Évidemment, Strasbourg n'est pas favori. Personne ne le dit, personne ne le dira.
Très honnêtement, là je te parle d'expérience et tout ça, mais quand tu vois le jeu fait par Francfort, parce qu'il y a cette campagne européenne qui est très bonne, ok. Pas de problème. À côté, il y a quand même des matchs de championnat. Moi, je les ai suivis. J'ai regardé le premier match
contre Polo, Fenheim, le week-end dernier,
où ils marquent à la première minute. Mais c'est exactement ce qui leur correspond, c'est qu'après, ils ont un petit peu subi, mais ils ont contré l'adversaire. Beaucoup d'attaques rapides. Il faut que Strasbourg évite de prendre un but vite. Et dans ces cas-là, il y a moyen de les contrarier. Je suis persuadé que Strasbourg peut prendre un petit avantage demain soir. Après, alors, le retour, ça sera autre chose.
Ce qui peut être inquiétant, c'est que la défense strasbourgeoise n'a pas montré beaucoup de gages de garantie depuis la reprise.
Ah ouais, mais bon,
Et là, en face, il va y avoir
des... Non, mais Jonathan, tu sais que sur les matchs de Coupe d'Europe, de toute façon, il faut élever ton niveau. Ouais. Encore plus quand tu t'appelles Strasbourg. Donc,
Jérôme, ce que tu dis est très intéressant. Moi, ce qui m'a frappé, en fait, pendant les matchs de Calife, en fait, pour l'Europa League, donc les matchs à Tallinn et à Vaduz. Vaduz n'était pas forcément intéressant si on y aurait mis 5-0 là-bas. Mais le match contre Tallinn était très intéressant parce que l'équipe, en fait, est montée en puissance. Et évidemment, il y a toute la préparation estivale. C'était vraiment match piège, et tu disais quelque chose qui me semble important, qui est le gros point pour moi négatif pour Strasbourg, c'est que on sent l'expérience européenne de l'année dernière de Francfort pour gérer ces matchs-là. Quand ils sont dans le dur, bah tu vois, ils savent très bien se replier il faut, faire moins d'efforts qu'on aurait pu faire si on avait encore ce trio magique à l'époque qu'on avait avec Haller, Rebic et Jovic. C'est très intéressant à ce niveau-là, et ça, à mon avis, ça va pêcher un petit peu par expérience du côté de Strasbourg.
Ouais, non, mais c'est vrai.
J'entends beaucoup Lamineau qui va être en feu demain. Je vous rappelle que le match retour contre Vaduz, c'est-à-dire où il y avait strictement pas de suspense, il y a eu 5-0 à l'aller, ils étaient 48 000, le stade était blindé, parce qu'il s'est passé quelque chose de très important l'année dernière à Francfort. Fort logiquement, les médias ont parlé de l'Ajax en Europe, en Ligue des Champions, et de que le bonheur qu'on pouvait avoir d'une équipe comme ça. Mais il s'est passé exactement la même chose avec Francfort en Allemagne, qui est devenu un peu le club de cœur, qui est redevenu.
C'est vrai, l'Ajax et Francfort ont été l'année dernière en Coupe d'Europe, un en Ligue des Champions, l'autre en Europa League, des attractions et des fagnons très intéressants à suivre.
C'est vrai.
Non, mais il est évident, Polo, que Strasbourg, qui arrive à ce niveau avec pas d'expérience dans la découverte, passer de Haïfa et Plovdiv d'un coup à Francfort, le gap il est énormissime. Je sais pas ce que Strasbourg va pouvoir faire, peut-être un exploit, j'en sais rien, mais le gap il est énormissime. Là, c'est plus du tout la même catégorie, on parle plus du tout de la même chose.
Quels sont les éventuels points faibles?
Par contre, soyons très clairs, il vaut mieux affronter Francfort demain que dans quelques semaines.
Ça c'est sûr.
Quels sont les éventuels points faibles là, qu'on pourrait voir demain de Francfort?
Au jour d'aujourd'hui, évidemment le fait qu'ils n'ont pas de véritable neuf du niveau de Sébastien Haller ou de Jovic, c'est-à-dire qu'on devrait avoir, à mon avis, deux changements ou voire trois par rapport à l'équipe qui a joué contre Fenheim. Je pense que le Portugais, Paciência, l'ancien de Porto, qui n'était pas titulaire la dernière, va jouer en pointe. À côté Rebic. C'est une équipe qui joue. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme. C'est quand même une équipe qui joue beaucoup. Et parfois, c'est un peu fébrile défensivement. Ils sont très poussés vers l'attaque. Donc, ils sont 6, 7, 8, qui ont dépassé les 50 mètres. Donc, il y a plus grand monde derrière.
Ils ont ce qui s'est passé,
l'ancien international japonais que j'aime beaucoup, mais qui a quand même 35 ans, qui a été repositionné en milieu défensif. Par contre, la force. Évidemment, c'est que Kevin Trapp, on l'a beaucoup critiqué à Paris, mais il a fait une saison extraordinaire l'année dernière. C'est encore une fois les latéraux, parce que ça va jouer sûrement demain en 3-4-1-2. Les latéraux Kostic et Da Costa, c'est très très fort. Ça joue tout le temps. Rebic à lui tout seul, évidemment, peut faire la différence.
Au milieu, parfois un peu fébrile, non, avec Fernandez. Pardon. Au milieu, parfois un petit peu fébrile.
Ça dépend qui y met, mais si tu mets Sébastien Rodeux, c'est quand même Fernandez, un joueur qui était au Bayern avant. Et à côté, t'as Gelson Fernandez, l'ancien Rennais, qui a 32 ans, que moi j'apprécie par sa polyvalence. En fait, c'est une équipe il y a beaucoup de.
Bon, Gelson Fernandez, franchement.
Pardon?
C'est pas un joueur qui nous a impressionné quand il était en France.
Non, mais c'est quelqu'un
qui a beaucoup d'expérience.
Dans la stratégie, et Polo a raison. Mais en fait, t'as pas compris, Polo, ce que j'ai voulu dire. Parce que, bien sûr, que c'est une équipe qui est très joueuse, qui va vite vers l'avant. Contre Offenheim, le fait qu'ils marquent vite, ils ont laissé le ballon à Offenheim, en fait.
Ouais, mais ils ont des occasions aussi.
Ah non, bien sûr. Non, mais attends, ça veut pas dire qu'ils ont pas d'occasions. Au contraire, à la récupération du ballon, ça explose. explose vite avec des latéraux qui jouent très haut parce que le système veut ça et qui passe très peu par
l'année dernière c'était déjà comme ça.
Ouais, et qui passe très peu par ces milieux axiales. Quand tu dis Gilbert que Gelson Fernandez, c'est pas oui, il a pas marqué, mais dans ce système là ça lui convient très bien à lui parce qu'il densifie le milieu de terrain. On lui demande pas, Gelson Fernandez, d'être le métronome de cette équipe, ça passe pas par lui. Par contre, après, une fois qu'il touche les latéraux, une fois qu'il touche les attaquants, alors plus l'année dernière, mais bon, en effet, il y a encore Rebic qui est là, bah, il se passe des choses. Et là, Strasbourg devrait être vigilant. Mais de toute façon, on connaît cette équipe, la valeur de cette équipe de Francfort, qui est capable d'évoluer à un très bon niveau. Si c'est le cas, je pense que Strasbourg n'aura pas de chance. Mais vu qu'on est en période de préparation, de fin de préparation, ouais. Écoute, Strasbourg, avec l'euphorie, le public, je sais pas, les mecs qui se transcendent d'un seul coup, qui arrivent à atteindre un niveau qu'ils ont jamais atteint, il peut se passer quelque chose. Demain, je te parle.
Strasbourg,
à Francfort, ça sera autre chose.
Ça va jouer à 3 derrière Strasbourg.
Bah, comme d'hab, oui.
Comme d'hab, ouais. Ce qui va être intéressant, c'est
demain à Strasbourg, tu as la défense type, tu as le milieu type a priori, ouais. Et par contre devant, il va, je pense qu'il va nous faire un petit tour.
Mais moi, ce que j'ai aimé,
ce qui va être intéressant, c'est le milieu.
Zoui, là, ouais. qui a marqué.
Moi, ce que j'ai aimé, tu peux mettre n'importe quel joueur demain. De toute façon, il y a beaucoup d'excitation et tout ça. Mais ce que j'ai aimé, c'est le discours de Loret. Alors souvent, l'année dernière, on l'a critiqué sur, mais j'ai vu sa conférence de presse aujourd'hui.
Oui, il était tranquille, c'était bien.
Ouais, ouais, il est tranquille, il est ambitieux. Il se dit pas, bon, bah écoutez, nous, c'est un match comme ça. Écoute, si on passe, non, là, il a envie de faire l'exploit. Alors après, il faut pas mettre trop de pression, mais il sait ce que ça représente. C'est un match aller-retour qui offre un truc incroyable pour Strasbourg. J'aime bien sa conf de presse.
On l'écoute. Pas le temps de le recaler, parce que le temps qu'il vienne de Strasbourg, hein, parce que ça passe oui, TGV, ouais. C'est 1h30. Voilà, hop, Thierry Loret.
Ça part à quelle heure demain, toi?
Aux alentours de 9h30.
Bon, 1h30 maintenant?
Ah oui, super rapide.
Plus 2h, ça, ouais.
Ah oui, non, 1h30 pour l'instant.
Et alors là,
demain, il y a peut-être un joueur qui a joué ce week-end qui s'appelle Dominique Cor, je l'adore parce qu'on le surnomme Hardcore, tu vois, il aime beaucoup la poésie.
T'es sérieux?
Ouais.
Hardcore, très bien. Bah écoute, puisque demain je serai au bord du terrain, je pourrai placer cette anecdote. Merci Polo.
Et en plus, félicitations.
Ah bon, on n'a pas tiré, il est resté à Strasbourg.
Jardinier, en fait, félicitations au jardinier de Strasbourg, parce que franchement, la méno, c'est régalade.
Dès que je vais à la méno, on parle du Jean Bretagne.
Il parle de moi. Mais tu sais que je
communique. Tu te souviens, Daniel, de l'histoire. L'an dernier, il a dit, ouais, le mec à Strasbourg, il est juste bon à s'occuper des ronds-points. Le gars s'est vexé.
C'est étonnant qu'il soit vexé.
Il a fallu que je les mette en rapport. Ils sont devenus potes, hein, avec Jérôme. Il s'appelle.
Il m'attend.
Du coup, la pelouse,
elle est magnifique. Et il m'a montré un terrain à côté de Strasbourg qu'il avait fait, où il avait fait un.
Son jardin, il a montré.
Non. Des cercles sur le terrain. Franchement, c'était magnifique. Et je l'ai félicité. Et la pelouse, elle est à la méno, c'est régalade.
Voilà comment Jérôme devient pote avec les jardiniers. Ouais. C'est quand même fantastique, cette histoire. Parle-nous un peu du coach de Francfort, Polo.
Vous savez, lundi, je vous parlais un petit peu de cette nouvelle vague des joueurs qui débarquaient un petit peu de la galaxie Red Bull. Mm-hmm. Et ben à 18h, c'est quelqu'un qui a évidemment été coach à Salzbourg, qui a évidemment été champion. Il n'a pas accepté. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis pas persuadé que ce soit un très très grand entraîneur, mais c'est très intéressant la façon dont il a fait évoluer, parce que je le trouve très intelligent. Par contre, dans sa gestion de l'effectif, je le trouve parfois un peu moyen, notamment l'année dernière lorsqu'il s'est plaint de ne pas avoir de banc. Il était plus en train de mettre des joueurs au rancard, qui d'ailleurs sont quasiment tous partis.
Tu l'aimes bien parce qu'il a dit merde à la multinationale, c'est ça?
Pardon?
Tu dis bien parce qu'il a dit merde à la multinationale, Red Bull et compagnie.
Non, bah parce que le modèle économique de Salzbourg, on le connaît. Ils ont des jeunes, ils partent tous. Donc il avait un peu marre de vouloir reconstruire chaque saison. Ensuite, ne l'oublions pas, il est parti en Suisse à Berne. Ça n'a l'air de rien, mais c'est lui qui a été champion pour la première fois depuis des années, alors que c'est le FC Bâle qui a été qui a dominé pendant la dernière décennie largement. Donc on l'attendait en fait en Bundesliga depuis quelques années. Il est arrivé un peu à la surprise générale à Francfort. C'était compliqué pour lui parce qu'il succédait à Niko Kovac qui avait quand même remporté la Coupe d'Allemagne avec Francfort. Hein. Il avait fait un super boulot Kovac à Francfort, à l'Eintracht. Et à 18h, honnêtement, a eu beaucoup de difficultés au début. On commençait à se poser la question de savoir si on n'allait pas devoir le remplacer. Il a repris l'ancien système mis en place par Kovac, c'est-à-dire défense à 3, 3-4-1-2 ou 3-4-3 à l'époque. Et finalement, ça a commencé à marcher grâce à une victoire un peu miraculeuse, là, rappelez-vous, en Europa League à Marseille, parce qu'il était en difficulté au niveau des résultats, et ensuite ça s'est enchaîné d'une façon assez extraordinaire. Je voudrais juste rappeler quand même qu'il s'est, donc il y avait un groupe où il y avait quand même Marseille et la Lazio, c'est pas n'importe quoi. Non, non, non. Il y avait Shakhtar en 16e, il y a eu l'Inter en 8e, Benfica en quart, et ils ont fini au péno contre Chelsea en demi. Ouais, c'était alors ils ont fini cramés, hein, ça leur a coûté sûrement la Ligue des Champions. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très très calme. C'est il a des objectifs.
Après, vraiment, tu sais,
on l'aime beaucoup à Francfort d'ailleurs. Freddy Bobic qui est pas
dans l'histoire du foot,
qui est assez avare en compliments d'habitude, n'arrête pas de dire que c'est un très très bon coach. Moi, j'attends beaucoup d'Adi Hütter en fait.
Dans l'histoire du foot, souvent ces équipes un peu surprises qui font des longues épopées en Coupe d'Europe, l'année d'après, elles se font sortir souvent un peu lamentablement.
J'ai bien cherché un signe là.
Pas tu parles. Mais... Vous avez constaté.
Et moi, Polo, en Allemagne, on dit Francfort ou on dit que Eintracht?
Les deux, tu peux dire les Aigles aussi, hein, les Adler.
Non, mais genre quand on le dit, par exemple, je sais pas comment en Italie, on dit jamais, on dit que Inter, quoi. Il y a jamais à coller Milan avec Inter. Là-bas, on dit Eintracht Francfort ou Eintracht tout court.
Il y a l'Eintracht, l'Inter Francfort. C'est
d'accord, on peut le dire.
Deux trois petites infos pour conclure, les gars. Deux trois infos mercato qu'on n'a pas donné. Corchia, Sébastien Corchia prêté à l'Espagnol Barcelone par Séville ce soir. Donc il reste
quel âge, Van?
Corchia doit avoir 28 ans.
Corchia. Moi aussi. Il y a un moment, très proche de l'équipe de France.
C'est un latéral droit très
28
joueur.
Ans. 28
un
ans.
Un bon joueur.
Après, il manque un peu.
Aucune nouvelle. Jean-Claude. Et puis, tout comme Harold Goulon. Ah, si on l'avait retrouvé, Harold Goulon.
La frappe,
il est au Vietnam.
Il était au Vietnam.
Harold Goulon, il est au Vietnam, il a marqué un but de 60.
Voilà, la frappe de
et Alain Giresse n'est plus le sélection de la Tunisie, le pauvre. Une nouvelle fois. À chaque fois, ça se finit pas très bien. Hein, à chaque fois pour Giresse. Bon, en tout cas, fin de contrat à l'amiable. Pourtant, il a fait une bonne CAN, il est sur la demi-finale.
Ah ouais, en termes de jeu, on s'est régalé. Alors là, franchement, c'est.
Avec le matos qu'il avait,
moi, je pensais que dans les compétitions comme ça, ce qui comptait, c'était. Que t'avais fait 3e, c'était formidable.
Ouais, pourquoi
c'était ça, moi.
C'est fini pour ce soir. Demain.
C'est formidable quand t'es 3e.
Demain,
tu gagnes,
l'after sera là dès la fin du match Strasbourg-Francfort.
Écoutez le leader Maximo, s'il vous plaît.
Pour analyser tout ça, merci Jonathan.
À quelle heure demain alors?
Dès la fin du match.
Donc, mais coup d'envoi et tout. Moi, je veux savoir à quelle heure tu fous la Mino.
Coup d'envoi 20h30.
Ça nous fait un petit 22h30 début d'after.
Un petit 22h30 début d'after.
Moi, je conseille aux gens de regarder le match et d'écouter la radio aux commentaires. Ça sera plus intéressant que les commentaires télé.
On est en concurrence alors demain?
Eh bah ouais, parce que moi je suis là.
Moi je regarde à la télé quand même.
Pour voir Gilbert et tout, c'est plus marrant.
Bah le match, oui, je vais regarder à la télé.
Salut Polo, merci beaucoup.
Bon match, Gilbert.
Merci.
Tu sais bien, voyons.
Salut Polo.
Bonne nuit à tous. Jérôme, Daniel, vous serez là demain soir, Jonathan. Vendredi, toi, Jonathan. Jonathan, c'est l'homme du vendredi.
Pas de Ligue 1 vendredi.
Ah, c'est vrai. Vendredi quand même, on verra, on improvisera.
Avec qui?
Exactement.
Avec Ludo, non?
Avec Ludovic Obraniak, le taulier.
C'est mon binôme.
Allez, c'est fini.
Ça marche bien, il est bien Ludo, il est de mieux en mieux.
Très bien.
RMC, l'After Foot.